Voilà, bonjour à tous. Voilà, on se partage les prédications entre Oscar, moi, Michel. Et je me suis mis devant le Seigneur pour savoir ce que je devais apporter. Et le Seigneur m'a dit, c'est la prière. Donc, je vais vous parler de la prière, mais c'est une série sur la prière, parce que je ne pourrais pas tout dire ce matin. Donc, en fonction de nos disponibilités les uns les autres, il y aura une suite, plusieurs parties sur la prière. Je vous invite justement à prier. Seigneur, nous te prions afin que tu conduises ce moment, Seigneur, où je vais apporter ta parole, que cette parole, Seigneur, soit ancrée, Seigneur, dans nos cœurs et qu'elle puisse produire du fruit. Parce que, Seigneur, ce qui est important, c'est que nous puissions la mettre en pratique. Et je te prie que ce moment, Seigneur, soit un moment où cette parole pourra être mise en pratique par chacun d'entre nous. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est de l'informatique, il y a beaucoup de choses à régler, mais ça marche. Voilà, la prière, il y a beaucoup de choses autour de la prière qui constituent un mystère. C'est un mystère, et vous verrez pourquoi c'est un mystère, mais un mystère qui va être révélé. Et ce matin, j'aimerais vous révéler quelque chose sur la prière qui concerne la foi. Mais il y a bien d'autres mystères à révéler sur la prière, parce que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir, en tant qu'humain, nous adresser à Dieu. Ça, c'est déjà en soi un mystère. Et on verra un petit peu plus loin. C'est aussi un paradoxe. Vous savez, les paradoxes, c'est deux choses qui sont contraires en même temps. Le chaud et le froid en même temps. Le paradoxe, c'est de faire. La prière, il faut faire, il faut prier. Et ne pas faire, et laisser Dieu faire. Donc vous voyez, là aussi, on verra un peu comment ces choses s'articulent. Il y a beaucoup, beaucoup de paradoxes dans la Bible, hein, parce que le paradoxe, c'est quelque chose qui est puissant pour agir, pour nous aider à agir. Et donc, la prière est un paradoxe, faire, ne pas faire, et d'autres paradoxes aussi. Elle repose sur la foi. Et ce matin, je vais un petit peu creuser cette question de la foi, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur, et c'est par la foi que nous devons prier. La prière est une communication avec Dieu. Nous communiquons avec Dieu par la prière. C'est de cette manière-là qu'il faut bien comprendre la prière. Et donc, c'est très important, mais aussi, il faut bien comprendre qui est Dieu et qui nous sommes, pour ne pas prendre Dieu comme un copain, hein, on lui tape sur l'épaule, voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Il faut savoir que le Saint-Esprit habite en nous, parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu met sa parole dans nos cœurs par son Esprit, et il habite en nous. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette relation avec Dieu. Donc il faut bien respecter aussi la personne du Saint-Esprit, et très souvent on ne se rend pas compte que dans la prière, on ne dit pas n'importe quoi. Hein. Il faut être conduit par le Saint-Esprit pour prier. Le christianisme est la seule religion qui permet d'avoir une relation directe avec son Dieu. Dans toutes les religions, on s'adresse à des dieux, au travers d'idoles, d'offrandes qu'on apporte, enfin des rituels, si vous voulez, pour s'adresser à Dieu. Dans le christianisme, donc avec Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire, le Saint-Esprit en nous qui a été placé au moment où nous avons accepté le Seigneur et où nous avons scellé l'alliance avec lui, eh bien, il habite en nous. Et c'est par le Saint-Esprit que nous avons une relation directe avec Dieu. Et le Saint-Esprit aussi nous purifie, nous sanctifie, parce que nous sommes encore pécheurs. Donc voyez, tout ça c'est un mystère que nous allons essayer de résoudre ensemble. Plus nous connaissons la volonté de Dieu, plus nous aurons du résultat dans la prière. Ça c'est quelque chose d'important que nous voyons dans la vie de Jésus. Jésus, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Donc il ne faisait pas, parce qu'il était homme, hein, il était Dieu, il était homme, ça aussi c'est un mystère, mais il n'en parlera pas ce matin. Mais en tant que fils de l'homme, quand il était sur terre, il était totalement soumis à son Père, sinon il n'aurait pas eu le résultat qu'il avait pour guérir, pour délivrer, etc. Il devait être soumis à son Père, et c'est pour cela que c'est un modèle pour nous. En tant que disciples de Christ, nous devons être soumis à Christ, au Père par Christ. La prière, c'est être en accord avec cette volonté. Donc déjà, il faut la connaître, la rechercher, savoir ce que le Seigneur veut faire, et ensuite, après, d'être en accord. Si nous ne sommes pas en accord avec Dieu, eh bien, il ne faut pas nous attendre à ce que Dieu nous réponde. Et donc, nous avons l'exemple de Jésus avec son Père. C'est aussi une attente, la prière. Mais c'est une attente qu'on appelle proactive, c'est-à-dire que ce n'est pas passif. Ce n'est pas dire, bon, je prie et puis j'attends. Je prie et j'attends, voilà. Non. Regardez l'exemple de la femme avec le juge unique. Elle voulait que vraiment son cas de justice soit réglé. Elle a insisté. Et parfois, il faut insister jusqu'à ce qu'on sente que... il y a une libération, bon, tout ça, on va aussi le vivre ensemble, je pense, dans les semaines qui viennent. Et la prière, c'est reconnaître à qui nous adressons notre prière. Alors ça, c'est très important. Bien sûr, nous disons, ah oui, nous adressons notre prière au Père, par le Seigneur Jésus, donc par le nom de Jésus. Mais parfois, on adresse des prières à quelqu'un d'autre, et là, on touche au combat spirituel qu'on abordera aussi dans le cadre de ces prédications. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la foi. Sans la foi, notre prière ne sera pas efficace. Nous devons tout faire par la foi et dans la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est la grande question que nous allons voir avec l'exemple du centenier romain. Vous voyez, le centenier, celui qui conduit une centaine d'hommes chez les Romains, dans l'armée. Et un jour, ce centenier est venu vers Jésus pour son serviteur, et Jésus admira la foi de ce centenier. Admira, c'est-à-dire qu'il a loué, qu'il a élevé cet homme, qui n'était pas un juif, à un niveau qui est bien au-delà des juifs de son époque. Il a dit, il n'a jamais vu en tout Israël la foi que ce centenier a exprimée. Donc c'est un modèle. Alors, lisons ensemble ce qui s'est passé avec cet homme. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Vous voyez, là on a une prière d'insistance, une instante supplication disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation ». Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait les amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne m'y suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Admira Jésus qui admire un païen, qui n'est pas juif, centenier romain. Il admire le centenier. Ça, c'est important. Ce mot est important pour bien comprendre la suite. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce récit se trouve dans d'autres évangiles. Alors, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi il y a 4 évangiles? Pourquoi un évangile? Eh bien, tout simplement parce que dans le christianisme, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des mythes, ce n'est pas une autre religion qui vous demande d'adhérer sans comprendre. Le christianisme est bien sûr spirituel, parce qu'on parle de Dieu, qu'on ne voit pas, c'est spirituel. Mais en même temps, il est humain. Et oui, il est deux en même temps, là encore, c'est un paradoxe. Et en tant qu'humain, il présente les choses humainement. Et si, par exemple, ça arrive de temps en temps, je pense que on l'a plus maintenant parce qu'il y a des stops, mais il y a souvent des accidents à ce carrefour-là, en tout cas les anciens, les anciens gardiens, tac, parce que le soir chez Renault, ils sortent à minuit, un truc comme ça, ils roulent à 100 à l'heure là-dessus. Bon. Donc voilà, donc il y a souvent des accidents, je pense qu'il y en a moins maintenant. Mais s'il y a un accident, et si vous, le gardien sort et voit l'accident, enfin, ou il le voit devant lui, il ne va pas décrire l'accident de la même manière qu'une personne qui est de l'autre côté. Vous voyez ? Si par exemple un vélo est venu, ou un, voilà, qui a confronté, il est de ce côté-là, vous le voyez, de l'autre côté, il ne le voit pas. Donc la description de du même accident est différente suivant les points de vue. Et les évangiles, c'est pareil. L'évangile de Luc, qu'on vient de lire, il relate ce récit d'une manière différente de Matthieu. Regardez ce que dit Matthieu. Matthieu dit, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. » C'est plus court, mais en même temps il s'adresse au centenier, alors que le récit précédent dit, le centenier est resté chez lui et il envoyait des messagers. Mais ça veut dire que ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu de la foi du centenier. Voyez-vous, c'est pour ça aussi que quand on lit la parole, il faut bien retirer ce qui est important de ce qui est superflu, qui fait partie du contexte. Alors, qu'est-ce qui est important dans la foi du centenier? Pourquoi le centenier est loué, admiré par Jésus? Alors, on va relire un texte que vous connaissez bien, Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, qui définit la foi. Là, c'est pareil, je vais prendre plusieurs versions. Parce que dans le grec, ou dans l'hébreu, le grec c'est le Nouveau Testament, l'hébreu c'est l'Ancien Testament, Dieu a révélé sa parole. Donc la révélation est juste dans l'original du texte. C'est pour ça qu'il faut connaître le grec et l'hébreu. Bon, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai des outils qui m'aident, et vous aussi, vous pouvez avoir des outils avec Strong, pour bien voir les différents, le mot qui est utilisé de différentes manières. Et il faut trouver la juste manière qui va dans le juste contexte. Donc je lis d'abord dans le passage de la version second, hein, c'est un théologien français début du siècle dernier qui a traduit de manière très bien la Bible, en tout cas au niveau du français. Voilà ce qu'il dit. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Quels sont ceux qui comprennent ce passage très bien ? Parfaitement. Quels sont ceux qui le comprennent pas complètement ou pas du tout? Bon, j'ai aucune réaction de la salle, donc je ne sais pas quel est votre... En tout cas, pour moi, c'est difficile. Pour moi, ce verset a toujours été difficile, je vous l'avoue. Et plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur la foi. Et c'est pour ça que je peux ce matin vous l'enseigner parce que j'ai cherché. Et quand on cherche, on trouve. Oh, voilà. Donc je vous invite à chercher et vous trouverez aussi. La version du semeur. La version du semeur, c'est une version plus moderne. Enfin, plus moderne. C'est pas une question de modernité. C'est que Kuhn a cherché à la mettre à disposition dans un français plus courant. Voilà comment il traduit le même texte original. L'original, il ne change pas, c'est le même texte grec. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est déjà un peu différent. Hein. C'est quand même différent de second. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers était harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Quels sont ceux qui comprennent mieux à partir de cette version? Non? Ah, quand même, deux personnes, voilà. Moi, je comprends déjà mieux que la version Louis II, qui est très littéraire, bon français. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est mettre en pratique, donc il faut comprendre. Si on ne comprend pas, on ne peut pas mettre en pratique. Donc là, c'est déjà mieux. Mais une autre version, c'est la King James, qui est encore différente. Donc ça, c'est une version qui, semble-t-il, sera au ciel, ceux qui aiment la King James. En tout cas, ce sont des théologiens qui se sont mis d'accord au temps du roi Jacques hein, et qui ont ensemble travaillé la question et l'ont rendue en anglais. Alors, l'avantage de l'anglais aussi, c'est que c'est une langue beaucoup plus concrète que le français. Le français, c'est du grec, c'est du latin, etc. C'est très abstrait. Tout ce qui est anglais, c'est plus concret. Donc voilà comment est traduit ce verset dans la King James. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtained a good report, etc. Alors, traduction, hein? J'ai pas la prononciation d'Olivier, mais quand même. Le français s'est dit que la foi est la substance des choses qu'on espère voir advenir. Quelque chose qu'on espère que ça arrive, hein, l'espérance, est la substance de ces choses. La foi, donc la substance, est l'évidence des choses qu'on ne voit pas, donc celles qui sont invisibles. Hello? Préférez l'anglais, le français, le semeur? Vous voyez comme quoi, ce verset, c'est pas encore ça, hein? En espagnol. Alors, qu'est-ce qu'il dit en espagnol? Je sais pas. Alors, en réalité, même King James ne traduit pas bien. Donc, vous voyez comme quoi, hein? Pourquoi? Parce que, en fait, l'original, puisqu'on peut accéder à l'original, tel qu'il a été révélé dans la parole, il utilise le mot hypostase. Alors là, qui est-ce qui connaît le mot hypostase? Levez la main. Vous êtes supposé le connaître, hein, en tant que chrétien évangélique, parce que c'est le credo, c'est notre fondement de foi, hein, qui est le credo, hein, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Voilà. Bon, qui est le fondement ultime du christianisme. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller plus loin dans la définition du christianisme, c'est le credo. Je crois dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous croyez tous la Trinité. Voilà. Eh bien, ces trois personnes, ce sont des hypostases. Voyez, c'est-à-dire que dans le grec, les pères de l'Église, qui ont voulu fonder le christianisme, ils ont dû chercher des termes qui traduisent une réalité qu'on ne peut pas traduire. C'est-à-dire que c'est un mystère. Même hypostase. Alors, hypostase, ça veut dire quoi? Vous regarderez vos Bibles, hein, je n'ai rien inventé. C'est ce qui est fixé en dessous. C'est ce qui est en dessous. C'est un fondement. Hein. C'est le fondement de quelque chose de réel. Hein. Les trois personnes de la Trinité, c'est le fondement de Dieu. C'est le fondement. Donc, hypostase, c'est un fondement. Alors, King James aurait dû dire la foi est un fondement. Et moi, j'aurais mieux compris que hypostase. C'est aussi une qualité première, le hypostase. Et c'est une confiance, c'est une ferme assurance. C'est pour ça que certains ont traduit ferme assurance. Alors, on n'est pas encore bien sorti de l'affaire, et c'est pour cela que je vais essayer de vous expliquer en quoi Jésus a admiré la foi de centenier qui a compris ça, que c'est l'hypostase. Alors, nous, on ne comprend pas, parce que c'est abstrait. Mais vous allez voir, ça va devenir très, très, très concret. Dieu, alors ça, c'est le credo, hein. C'est une seule substance, c'est Dieu, il est un. D'ailleurs, c'est le Shema Israël qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est un. » Il ne partage pas sa gloire avec un autre, mais il est trois. Ça, c'est Jésus qui nous le révèle, puisqu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ces trois personnes dans la Trinité s'appellent le fondement même de l'unité de Dieu. Eh bien, la foi est un fondement. C'est ce qui est utilisé par l'apôtre Paul dans Hébreux 11, verset 1. C'est le fondement qui est la possession des réalités. Par ce fondement de la foi, on possède des réalités. Alors, quelles réalités? On va le voir tout à l'heure. Des réalités qui demeurent en plus. C'est-à-dire qu'elles ne changent pas. Voyez-vous? Donc, c'est important de le savoir, ce qui ne change pas. Ce qui change, bon, ok, on attend le changement. Non, non, ça ne change pas. Et ce qui demeure, ben c'est quoi ce qui demeure? C'est écrit dans la Bible? C'est 1 Corinthiens 1 Corinthiens 13. Merci Marie-France. La foi. La foi, l'espérance et l'amour. Relisez vos Bibles. Le dernier verset, je crois que c'est verset 13, je ne sais plus. Non, enfin, du chapitre 13, non, c'est pas le 13, mais. Le dernier verset se ponctue en disant ce qui demeure pour l'éternité. Bien sûr, le plus grand, c'est l'amour, mais la foi, l'espérance et l'amour. Eh bien, la foi, c'est un fondement. C'est un fondement. Si on n'a pas ce fondement, eh bien, on ne peut pas prier correctement. C'est un fondement. Et le centenier l'a saisi. Comment il l'a saisi? C'est très simple, parce qu'il était pratique. Et vous prenez par exemple la prière, eh bien, dans Galates, c'est la justice. La justice aussi est sur le fondement de ces trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont trois fondements pour la prière. La foi du centenier, vous le voyez, quand il parle, quand Jésus parle de lui, il est relié à l'espérance de la guérison. C'est-à-dire qu'il vient pratiquement pour son serviteur. Il ne vient pas pour lui, il vient pour son serviteur, pour qu'il soit guéri. Mais il vient avec le fondement de l'espérance qu'il va être guéri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la foi. C'est la foi est liée à l'espérance. Et l'espérance est liée à la foi et à l'amour. Et il est attaché, donc le centenier, il est attaché non seulement à la foi et à l'espérance, mais à l'amour. L'amour du serviteur. Vous vous rendez compte? C'est un esclave. Le serviteur est un esclave. Michel a parlé de l'attitude des esclaves dans la Bible. C'est un esclave, un serviteur. Mais il prend soin de son serviteur, il aime son serviteur, il veut qu'il soit guéri. Et à l'amour de Jésus, qu'il voit guérir des malades, délivrer des gens, etc. Parce qu'il s'est renseigné, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est renseigné sur Jésus. Et à l'époque, eh bien, le téléphone, ça marchait, hein, il était oral. Tout le monde parlait de Jésus. Ah oui, il a fait ça, il a fait ça, il a guéri, il a calmé la tempête, tout ça. C'était les nouvelles de l'époque, et c'était connu. Et le centenier a entendu ça. Et il a vu que Jésus, il avait l'autorité et la puissance pour guérir, l'autorité et la puissance pour délivrer, l'autorité et la puissance pour amener les gens à une nouvelle dimension de bonheur et de réalité spirituelle. Et il avait donc le fondement sur ces trois choses: la foi, l'espérance dans la guérison et l'amour. Et c'est pour ça que Jésus a admiré la foi de cet homme qu'il n'a jamais trouvé en Israël. Parce que il était tellement sûr que ça pouvait pas arriver qu'il a dit: non, non, Seigneur, je suis pas digne. Je suis un pécheur, je suis pas juif, je suis un païen. Tu ne peux pas rentrer chez moi. Mais je sais que si tu donnes un ordre, Ça va être fait. Alors, vous voyez un petit peu mieux l'hypostase, c'est-à-dire le fondement, la foi, l'espérance et l'amour. Le centenier vivait dans le pourquoi Christ est venu sur la terre. Mes amis, cherchez toujours le pourquoi. Why? Le pourquoi des choses. Et là, vous trouverez des choses qui peut-être sont mystérieuses au départ et qui vont vous éclairer, comme ce matin, la prière. Non seulement Jésus avait cette mission et cette autorité de guérison, mais il nous l'a donnée. Donc c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Regardez dans Matthieu 10. Matthieu 10 appela les 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie, toute infirmité, par la foi. Donc si nous n'avons pas la foi qui est reliée à l'espérance et l'amour, eh bien, pas la peine de prier. Nous n'avons pas cette qualité du centenier qui a saisi sa prière comme une réalité et qui l'a vue se réaliser immédiatement. Le serviteur était guéri. Vous voyez un petit peu mieux les choses? Alors on va aller plus loin. On va aller plus loin pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est que la prière de foi. Juste au passage, je signale qu'il y a d'autres exemples, on verra ça une autre fois, mais je le cite, hein, avec Galates 5, 2, où Paul rappelle que la foi est agissante par l'amour, qui complète ce que je viens de te dire, mais qui l'applique à la justice. Voici, moi, Paul, je dis que si vous faites circoncire, à l'époque, les Juifs qui sont devenus chrétiens voulaient garder la circoncision, il dit, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Si vous faites circoncire, ok, mais pratiquez toute la loi. Hein. Bon, sinon, c'est pas logique. Et vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Si c'est parce que vous voulez appliquer la loi que vous voulez être juste, ben vous avez besoin de Christ et vous êtes en dehors du christianisme. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Vous voyez, l'espérance revient. Et on termine par l'amour, car en Jésus-Christ, la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi est agissante à travers l'amour. Alors? Ça va mieux là? Il y a déjà un point que je voudrais vraiment que vous reteniez ce matin, c'est que 1 Corinthiens 13 qui dit que trois choses demeurent, de la même manière que Dieu demeure, Dieu ne change pas, Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a trois choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Si ce n'est que dans les mariages, on cite tout le temps ça, etc., on ne sait pas l'appliquer. Appliquez-le dans la prière. Alors, la foi du centenier, Jésus d'ailleurs dit pourquoi le centenier a compris. Parce que il a comparé son métier à celui de Jésus. C'est tout. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Eh bien, Luc l'explique très bien dans son passage. C'est la même structure d'autorité qui se trouve dans l'armée, avec un général qui commande l'armée. Donc, il commande un certain nombre de personnes qui sont sous ses ordres, donc des officiers, sous-officiers, caporal. Enfin, moi, je suis antimilitariste, donc je ne connais pas bien tous ces grades, mais il y a énormément de grades, jusqu'au soldat, qui lui doit obéir. Et s'il n'obéit pas à toute la chaîne de commandement, eh bien, il peut être fusillé, en tout cas, c'est un traître, etc. Bon. Donc, vous voyez, c'est très, très fort, cette image de l'armée. Et le centenier, c'était, je ne sais pas quel grade il avait, en tout cas, il avait 100 bonhommes, le capitaine de ses 10. Bon, voilà. Donc, il était dans cette hiérarchie. Et il explique pourquoi il a la foi. Parce qu'il dit, ben oui, Jésus fait pareil que moi. Eh? C'est pour ça que je vous dis, c'est très pratique. Une fois en arrivée, les hypostases, c'est un peu compliqué. Là, c'est très pratique. Eh bien, l'autorité sur la terre d'une armée, c'est la même que l'autorité surnaturelle de Christ qui commande à un certain nombre d'êtres qui sont invisibles, on appelle des anges, des structures angéliques. Hein, je ne vais pas faire une prédication sur les anges, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les anges, les archanges, les dominations, etc. Voilà. Bien sûr, il y en a qui ont suivi Dieu et d'autres qui se sont rebellés. On verra ça juste dans quelques secondes. Mais en tout cas, les anges sont au service de Dieu. Ceux qui sont restés fidèles sont au service de Dieu. Hello? Et même à notre service, puisqu'en dessous, les humains, on est à la base de cette hiérarchie où ces anges, ces messagers, nous servent. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des gens qui ont été servis par des anges? Ça peut me lever la main. Non, vous n'avez pas rencontré d'anges? Je suis sûr que vous allez rencontrer, mais vous ne les avez pas discernés. Parce que les anges, dans la prière, ils sont déclenchés par la prière. Et on verra ça par la suite. Et c'est là que vous pouvez être motivé à prier, quand vous comprenez que Christ donne des ordres, comme dans une armée. Allô ? Il y en a qui croient ça ? Il y en a qui croient ça ? Ah ben, si vous le croyez, c'est une réalité, c'est pas une fiction. C'est dans ces réalités que nous sommes. Ou quand vous vous adressez à Jésus, ou au Père par le Christ, eh bien, Christ a l'autorité. On le chante, on le loue dans la louange, le groupe de louange, on loue le Seigneur parce qu'il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, hein, Franz. Ben, il est roi des rois sur quoi ? Sur toutes les structures que Dieu a créées. Et il a créé un tas de structures qu'on appelle spirituelles. Nous devons nous intéresser aux choses spirituelles. On parle tout le temps de spirituel. Ben, il faut connaître les anges, etc., comment ça se passe. Et aussi, pour bien savoir prier, en tout cas quand on va arriver au combat spirituel, c'est très important de savoir quels sont les anges qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Parce qu'il y a, je crois que c'est un tiers hein, qui a quitté, quand même. C'est énorme. Et là aussi, il y a une structure, mais qui est gouvernée par Satan. Donc Satan donne des ordres aussi. Donc il y a des ordres, des contre-ordres et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe là ? On est entre deux. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, Oscar a dit qu'à Jérusalem, j'étais pas, on sent les deux, la paix et la guerre. Parce que c'est une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Je suis désolé. Sinon, ça n'a pas de sens de lire la Bible, de voir l'Apocalypse, de voir toutes ces choses, la fin des temps et tout ça. Bon, parce qu'on est dans une guerre spirituelle qui va s'arrêter par la victoire du Seigneur sur Satan qui sera lié. Okay ? Mais en attendant, il agit sur les humains et sur les chrétiens. Alors ? Il y en a qui croient que l'ennemi peut agir sur les humains ? À ce moment-là, écoutez la prédication d'Oscar. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Quels sont nos ennemis ? C'est Satan ? C'est la chair ? C'est le monde ? Vous êtes dans le monde ? Oui ? Donc vous êtes influencé par le monde. La culture, influencée par le monde. On a différentes cultures ici, mais je peux vous dire qu'il faut faire du ménage dans nos cultures. Dans les Caraïbes, ils ont encore le vaudou. Et même le pape a dit, oh, mais c'est pas grave, faut garder le vaudou, c'est très bien, etc. Bon, voilà. Donc, vous voyez, on est influencé par le système infernal, par nos cultures. Dans la chair, n'en parlons pas. La Bible parle tout le temps, enfin, le Nouveau Testament, marcher par l'esprit pour ne pas marcher par la chair. Parce que la chair, elle est influencée par ce système infernal. Et ça, le centenier l'a compris. Alors ? Ben c'est pour ça que Dieu l'a admiré. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Mes disciples, les juifs, etc., ils comprennent pas du tout comment ça marche. C'est comprendre la structure spirituelle céleste pour pouvoir prier et avoir la foi. Mes amis, c'est ça. Et c'est ça que je me propose d'enseigner dans les écoles du centre apostolique qu'on est en train de créer là, dans ce lieu, parce que Dieu m'a enseigné là-dessus, parce que Dieu m'a parlé là-dessus, parce que Dieu m'a montré des choses. C'était très dur, j'ai failli mourir de tout ce que j'ai vécu, mais ça m'a permis de comprendre ce que le centenier a compris. Et je dis, Seigneur, c'est super. Je prie, et toi tu agis. Allô? Je prie, je fais, et après je ne fais pas. Et c'est le paradoxe. Je te laisse faire, Seigneur, parce que je crois que tu donnes des ordres et que ça va se passer. Et je regarde. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça la paix du chrétien dans le combat spirituel. Mais il y en a qui... Je ne vais pas parler ce matin, parce que ce sera un des sujets. Mais moi aussi, je m'étais battu tout ça pour essayer de contrer l'ennemi. Ben, il n'y a que le Christ qui est le Père, mais les ennemis sous ses pieds. Ça fera partie d'un autre enseignement. Voilà ce que le centenier a compris, simplement en mettant en regard ce qui se passe dans l'armée avec ce qui se passe dans l'armée du ciel. L'armée terrestre, l'armée du ciel. Je reviens à Éphésiens 6, sur lequel Oscar vous a parlé, en parlant de toutes les armes, hein, les armes du chrétien. Il y en a 6 qu'il a développées, mais la 7e, c'est la plus importante. La 7e, qui se trouve à la fin d'Éphésiens 6, je peux vous dire, mes amis, c'est la plus importante de toutes les prières. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette arme qui est la prière, eh bien, c'est elle qui va donner la puissance à toutes les autres armes. Si toutes les autres armes, vous les avez, mais vous n'avez pas la prière, eh bien, vous pouvez vous coucher parce que vous n'aurez pas le dessus. Pourquoi ? Parce que nous ne combattons pas la chair et le sang, dit Éphésiens 6. Nous combattons contre les... Allô ? Puissance, autorité, domination, etc. C'est Éphésiens 6. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes attaqués ? Eh bien, nous nous défendons avec ces armes. D'accord ? Ok. Mais la seule arme qui est offensive dans cette panoplie des 6 armes, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée. Toutes les autres sont défensives. Le casque, la ceinture, le bouclier, etc. Elles sont défensives. La seule, c'est la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Parce que la parole de Dieu, l'ennemi l'utilise aussi, la parole de Dieu. Et parfois, il la connaît mieux que nous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, en fait, l'ennemi nous attaque. Donc là, nous sommes dans le naturel avec les armes, hein, bien qu'elles soient spirituelles. Et l'ennemi, lui, il envoie des flèches. D'accord ? Voilà. Il envoie des flèches. C'est vrai que si nous avons le bouclier de la foi, on peut les contrer. Ok. Mais l'ennemi est malin. Et souvent, il nous attaque par derrière. Et derrière, nous n'avons pas d'armure. C'est pour ça qu'il faut des frères. C'est pour ça qu'il faut une église aussi. Des frères qui protègent l'arrière du dos. Mais quand vous priez, si ce même chrétien qui a les armes, il prie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mes amis, je vais vous le dire. Ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'en fait, la prière déclenche le fait que Jésus commande à des anges de prendre soin de cet ennemi qui nous attaque. Et c'est ça, la foi, mes amis. Et c'est ça qui nous donne la victoire. Et c'est ça seul qui nous permet de marcher en assurance dans la vie et de compter sur lui. Alors, l'inconvénient de ça... Je connais l'inconvénient. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas maître du temps auquel le Seigneur va répondre. Nous, on veut que ce soit tout de suite. On est attaqué, on veut que ça s'arrête. Des fois, ça prend plus de temps. Et là, dans la prière, ça prend plus de temps. Donc, il faut exercer la foi, l'espérance et l'amour. Donc, il faut espérer que Dieu répond. Vous voyez ? Donc, c'est là qu'on rentre dans le mystère et la difficulté de la prière. Donc c'est faire, les armes spirituelles, y compris la prière, c'est faire, et ne pas faire, laisser Dieu faire pour qu'il donne des ordres à ses anges qui sont là pour nous, des messagers pour nous. Il faut le croire. Si vous ne le croyez pas, vous n'avez pas la foi du centenier, vous avez une foi, mais pas celle du centenier, qui, elle, à coup sûr, amène la guérison. On va lire ce passage, Éphésiens 6, 18, donc, qui termine l'ensemble de cette panoplie des armes. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » J'aimerais qu'on dise ensemble, si vous voulez bien, la première partie, « Faites en tout temps. » Allez-y. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Encore une fois, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Mes amis, ça, c'est le septième arme qui est la plus efficace. Priez par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez-y avec une entière persévérance. Alors ça, si ce n'est pas la prière, mais dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. On ne peut pas être plus clair dans la parole de Dieu. L'importance de la prière pour les hommes. Alors j'insiste bien pour les hommes. Et honnêtement, je suis très réjoui de voir le mercredi, il y a énormément d'hommes qui viennent. Mes amis, ça c'est le début de la victoire. Parce qu'en général, les églises sont remplies de femmes qui prient, etc. Mais s'il y a des hommes qui se lèvent, je peux vous dire que l'ennemi, il a intérêt à se garer. Il a intérêt à se garer. Et mes amis, continuez les hommes à venir dans la prière. Et vous allez voir les victoires qu'on va avoir. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Timothée 2:8 ? Paul dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Il s'adresse aux hommes. En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça veut dire qu'il faut déjà se purifier. Il faut que l'homme, le mari, celui qui est le chef, etc. Ok, c'est un privilège, mais c'est un défi d'élever des mains pures. Donc il faut qu'il se consacre au Seigneur. Vous voyez, là, il y a des conséquences. Hein. Je ne vais pas rester là-dessus, mais dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, il dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec les femmes, avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc, les prières, tout à l'heure, j'ai dit, si vous voulez que ce soit efficace, les hommes, eh bien, si vous ne respectez pas ces conditions, elles n'auront pas d'efficacité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut non seulement respecter les femmes, mais les honorer. Mais, vous voyez, donc c'est une responsabilité, la responsabilité du chef vertueux. Qui est donné dans Éphésiens 5, verset 2, qu'on utilise pour le mariage, etc. Que l'homme est le chef de la femme, etc. Mais c'est des responsabilités. Mais, mes amis, il faut que les hommes se lèvent dans cette dimension de la parole. Dans cette saison, la prière, cette saison de l'Église, hein, je parle maintenant, elle est indispensable. Indispensable. Pour réaliser la vision du phare. On parle toujours de vision du phare. Mais s'il n'y a pas la prière, on ne la fera pas, là, cette vision du phare. Ne faites pas d'illusions, ce n'est pas possible. Et si on veut assurer un service dans la maison de prière pour toutes les nations, que le Seigneur nous a demandé de construire ici, et qui maintenant est disponible, et qu'on va inaugurer l'année prochaine, où elle sera ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où des chrétiens vont venir pour prier, etc., c'est la prière, mes amis. C'est la prière. Ici, dans ce lieu, bon, on a le culte, on a des réunions, etc., mais c'est la maison de prière, elle est bâtie, construite pour être remplie de la prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mes amis. Et ça, Dieu le fera, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là. Mais il vaut mieux... Moi, je préfère être là pour le faire, parce que c'est un privilège. Mais en même temps, pour être là, il faut venir. Et je vous remercie pour les hommes qui viennent actuellement, parce que vous avez choisi la bonne part et vous allez entraîner tous les hommes à le faire, j'en suis sûr. Il faut connaître toutes les formes de prière car la tâche nous dépasse, mes amis. Et l'ennemi qui s'oppose à notre projet, il ne veut pas qu'il y ait une maison de prière ici. Il est puissant. Il ne faut pas oublier sa puissance. Jésus le terrasse, mais pas nous. Il est puissant et il n'abdiquera pas facilement. Il faut prier avec foi. Alors pour terminer, je vais laisser la place au pasteur Oscar pour la scène aujourd'hui. Il y a différentes sortes de prières et je vais juste vous donner quelques formes de prières. Dans Philippiens et Timothée, il dit que la parole de Dieu nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc vous voyez, des prières, des supplications, c'est-à-dire une insistance. Il existe différentes sortes de prières, en Philippiens 6, on vient de le voir, en toutes circonstances, fait toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Il faut donc savoir les types de prières et discerner laquelle type de prière convient le mieux à chaque situation pour compter sur le Saint-Esprit. Donc il faut être enseigné. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est dit « Or, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Donc même la prière... Il faut l'aide de l'esprit pour prier correctement. Alors, je vais juste vous citer un certain nombre de types de prières qu'on va aborder dans la prochaine série. Je n'ai pas aujourd'hui le temps de démarrer la première, mais je commencerai la première la semaine prochaine ou la semaine d'après. Les différentes sortes de prières, c'est d'abord les prières de requête. Alors, celle-là, on le fait le mercredi. Ça, c'est le type de prière, on requête, on fait la requête, on demande au Seigneur de bénir des malades, etc., chacun des requêtes. Daniel aussi a fait la prière de requête, etc. Ensuite, la prière d'autorité ou la prière de combat spirituel. Alors là, il faut être enseigné pour pas faire du mauvais combat spirituel, parce qu'il peut être pire que du bon. Et je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Je suis très heureux de voir que vous avez appris le bon combat spirituel. Que je vais enseigner et que j'enseigne aussi dans l'école que je suis en train de créer dans le centre apostolique. Les prières de proclamation ou les prières prophétiques. Les proclamations prophétiques. Ça aussi, c'est un type de prière qu'on va aborder pour savoir comment faire ce genre de prière. Les prières d'action de grâce, ça vous le connaissez, remercier le Seigneur, être reconnaissant. Déjà dans la même prière, il faut être reconnaissant au Seigneur. La prière de louange aussi, la louange au Seigneur, c'est un combat. Pendant des années, on a fait Moving Glad ici, enfin, c'était un temps de louange, etc. Bien sûr, l'ennemi n'aime pas ça. On a même fait quelque chose qui était unique en France à l'époque, par France en feu. C'est 48 heures dans ce lieu, parce que, vous voyez, avant vous, il y avait d'autres chrétiens qui étaient là. On a fait du combat spirituel. Et on a fait 48 heures de louange non-stop. Avec 12 groupes de louanges qui passaient, il n'y avait même pas une minute d'arrêt. Ils louaient pendant 2 heures ou 3 heures et ils changeaient, etc. Non-stop, nuit et jour. Nuit et jour, 48 heures. C'est jamais fait. Ça fait 24 heures, 24 heures, ça s'est fait, avec Fabienne Pont, etc. Mais là, 48 heures, ils ont dit, il faut qu'on vienne. Quand j'ai appelé les intercesseurs, ils ont dit, on sent qu'on doit venir 48 heures chez vous. Waouh! Et je peux vous dire qu'après ça, le ciel s'est ouvert. Parce que la louange au-dessus d'un bâtiment comme ça, eh bien, ça repousse les ténèbres, les amis. Ça, c'est ma conviction. Et c'est ce que j'ai vu. Sauf que c'est retombé. C'est retombé dans l'entre-soi des chrétiens. Vous voyez, c'est l'ennemi, il utilise la chair pour « Ah oui, on est bien ». Non, on est dans un combat, mes amis. Jusqu'au bout, on sera dans un combat. Donc la louange est une arme de prière. L'adoration, ne parlons pas de l'adoration. On se met par terre devant le Seigneur, on adore, etc. Bon, ce sera fait dans la maison de prière. La prière d'intercession, intercéder pour quelqu'un d'autre, pour demander au Seigneur pour ouvrir pour la ville, pour des choses qui sont dans l'intercession. Ça aussi, on va l'avoir. La prière d'accord, être d'accord, là où 2 ou 3 sont d'accord, ensemble, ils vont recevoir la réponse. La prière de supplication et d'enfantement, ça aussi c'est une forme de prière. La prière d'humiliation, alors là c'est très important, la repentance. Humiliez-vous devant le Seigneur et le Seigneur va ouvrir grand les portes. La prière en langue, par l'Esprit, Là aussi, il faut aussi qu'on aborde ce thème. Et la prière de consultation, consultative, j'en parlerai quand le temps sera abordé. Voilà, donc on va arrêter là. Et la prochaine fois que je pourrai prêcher, j'aborderai la requête, prière de requête, et ensuite après les autres. Parce que, mes amis, ce temps où vous êtes, si vous avez choisi cette église, c'est pour la prière. Sans la prière, on n'arrivera pas à faire le mandat que le Seigneur nous demande. D'établir ici une maison de prière pour toutes les nations. D'établir ici une Jérusalem, une ville de paix, une ville refuge, comme ça a été le cas pendant des centaines d'années dans cette ville que Dieu a choisie. Et pour ça, eh bien, il faut la prière. Et je vous invite à baisser la tête pour demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, aide-nous à avoir la foi du centenier. C'est vraiment lui que tu as admiré et qui nous a montré l'exemple, Seigneur, d'une prière de foi. Parce qu'il savait que ce qu'il demandait, tu allais le faire par un seul mot. Et si toi tu prononces un mot, eh bien Seigneur, toutes les sphères spirituelles t'obéissent. Parce que Dieu, le Père, t'a donné l'autorité. Et nous le chantons, mais Seigneur, nous voulons l'expérimenter ensemble. Et nous te remercions de ce que tu vas nous faire entrer dans ces choses. Te prions au nom de Jésus. Amen.